Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Nous discutons avec Denise Bombardier qui écrit un excellent papier aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, La politique en folie. Bonjour Denise.
Bonjour Richard.
Chaque fois que je critique le gouvernement, parce que quand même en tant que commentateur, journaliste, c'est pas seulement notre droit, mais c'est aussi notre devoir de critiquer le gouvernement, mais en même temps je me sens mal parce que je me dis on a aussi un devoir de solidarité. Bref, l'équilibre entre les deux n'est pas facile.
Non, c'est pas facile et ce n'est pas facile pour moi aussi, mais quand je vois comment tout à coup autour de cette taxe santé qui est une chose discutable, j'en conviens. On ne veut pas rentrer là-dedans, là, mais c'est évident. Mais c'est parce que on oublie le contexte dans lequel on vit. On vit depuis plus de 2 ans enfermés. On est menacés, non pas par un pays, mais par un virus. Et la terre entière essaie de lutter. Nous avons en démocratie des institutions qui définissent, n'est-ce pas, les droits des individus. Mais revendiquer comme un droit personnel de ne pas être vacciné alors que ça met en danger la majorité, eh bien, voilà un moment où on s'interroge sur les limites de la démocratie. Qu'est-ce que l'on fait jusqu'à maintenant? Et vous savez, ce matin, j'aurais pu, comme je dis, intituler ma chronique c'était 1-0, j'ai intitulé ça lundi.
Oui.
Ben ça pourrait effectivement être 2-0 pour les antivax aujourd'hui, parce que ils réussissent à réunir autour d'eux, je dis, ce sont des alliés objectifs, les autres là, tous les partis d'opposition cherchent à confronter le premier ministre, comme si le premier ministre et les ministres avaient des heures, sinon des journées à passer à expliquer aux membres de l'Assemblée nationale ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas le temps pour ça, hein. Et puis en plus, que ferait le Parti libéral? Mais madame ne nous le dit pas. Ce qu'elle ferait, elle. Est-ce que vous croyez que Québec solidaire nous peut dire ce qu'il ferait si c'était eux qui étaient au pouvoir? C'est très compliqué, parce que là, on est à la limite de, justement, dans la démocratie, du droit individuel qui vient tout à coup, et les gens qui défendent à tout prix le droit individuel trouvent que les droits collectifs, ça n'existe pas. Hein? Les droits de toutes sortes de minorités, ça existe, mais le droit collectif, ça n'existe pas pour eux. Bon, alors donc, que ferait-il? Et là, on est dans une période charnière. C'est pas parce qu'il y a des décisions qui sont mal prises, c'est pas parce que le couvre-feu, oui, sans doute, était, mais on ne le sait pas. Ce qui serait passé pendant le temps des fêtes, est-ce qu'il y aurait effectivement les gens le soir auraient été se réunir jusqu'à 10 heures, jusqu'à minuit? On ne le sait pas. Ils ont fait ça. Ça peut être discutable, mais c'est infiniment moins grave que ce qui se passe dans nos hôpitaux, ce qu'on appelle le délestage. Il y a un lecteur ce matin qui me dit: on réduit toutes les souffrances et les détresses des victimes de leur report de chirurgie à un mot passe-partout. Ça s'appelle le délestage. Mais on ne dit pas que le délestage, c'est des gens qui vont mourir.
Oui.
Parce que il fallait qu'ils soient opérés pour le cancer. Ils ont des métastases et ils en auront encore plus dans 6 mois. Et on ne sait pas si on pourrait les sauver. Faut parler clairement. Et puis, on réduit aussi la souffrance, les problèmes psychologiques des gens qui travaillent dans l'hôpital et qui sont au-delà de l'épuisement. Hein? Ça s'appelle ça l'engorgement des hôpitaux. Mais l'engorgement des hôpitaux, il est dû à qui en partie? Il est dû à ceux qui sont dans les lits pour être traités du COVID alors qu'ils ne croient même pas au virus. Mmh. Alors donc, on est dans crise. Et ces revendications à la fois de toutes les oppositions à l'Assemblée nationale et de tous ces groupes, l'Association des médecins de gauche qui disent mais c'est une façon de déconstruire, mais de déconstruire notre service de santé, notre système de santé. Mais le système de santé, on voit ce que ça donne.
Et Denise, il y a plein de commentateurs qui ont pris position contre la fameuse taxe le anti-vax.
Oui.
Qui ont pris position.
Oui.
Et là, je lisais certains de leurs arguments et je me disais, mais est-ce qu'ils se rendent compte de la gravité de la situation? Parce que là, ils disent, oh oui, ça va être quoi la suite? On va taxer les gens qui ont de l'embonpoint ou les fumeurs ou les gens qui font pas d'exercice. Mais là, ben non, premièrement, l'embonpoint, l'obésité, le cholestérol, le diabète, ça s'attrape pas, c'est pas contagieux, premièrement. C'est un argument qui tient pas debout. Mais deuxièmement, est-ce qu'ils se rendent compte là, qu'on est en train, Denise, de passer à un niveau 5 de délestage? C'est-à-dire ça, 90% des opérations reportées. Voyons donc.
Oui. Et les petits-enfants qui sont pas soignés, l'hôpital Sainte-Justine est devenu un endroit où on peut plus soigner les enfants. Il y a des médecins qui disent, dans l'hôpital, tout ce qu'on peut donner aux enfants des enfants en consultation, là, pas des enfants qui ont à subir des opérations, c'est de leur donner des calmants parce qu'ils sont trop énervés. Mais on se rend pas compte de ça. C'est comme si, bientôt, on va dire que, on va s'opposer parce que dans les hôpitaux, le premier ministre ou dans les CHSLD, ils changent pas les draps tous les jours et que c'est une violation des droits individuels, mais en fait, c'est la catastrophe qui se passe. Et c'est ça qu'on vit. Ces gens ont des positions soit idéologiques très fortes, et c'est identifié, ou ce sont des gens qui ne discutent que de théorie et qui ne savent pas dans quel pétrin nous sommes et dans quel pétrin nous allons continuer d'être même quand ce virus se sera calmé. On sera dans l'attente d'un autre. Notre vie a basculé et c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est des gens qui n'ont pas le sens du tragique. L'histoire est tragique. On a été, nous, à l'abri des grandes guerres. Je veux dire, ça, on y a participé, mais de façon indirecte. Et heureusement qu'on y a participé. Ça a fait tomber Hitler en 45. Mais c'est sûr que c'est quelque chose comme ça que l'on vit.
Mais il y a plein d'exemples. Par exemple, j'entendais quelqu'un, là, un oncologue qui disait il va avoir une flambée de cancer colorectal. Pourquoi? Parce que les tests, justement, les analyses ont été repoussées. Il y a des gens qui ont actuellement un cancer colorectal.
Les passer. Mais bien sûr. Quand on est jeune puis qu'on n'est pas malade, on pense pas qu'il y a des gens. Et puis de toute façon, il y a même des gens qui disent de toute façon c'est les vieux. Moi j'ai entendu ça. Vous savez déjà que les vieux meurent. Hein?
Ben oui, je l'ai vu.
Que les vieux meurent, ça c'est un slogan que pourraient revendiquer certaines personnes. De toute façon, c'est la fatalité des choses. Eh bien, c'est ahurissant. Et le gouvernement actuel, c'est pas parce qu'on est des caquistes, on n'a pas ça tatoué sur le bras. Que il faut soutenir le gouvernement qui lui-même est composé d'hommes et de femmes qui sont perturbés, qui ont eux-mêmes des gens autour d'eux qui sont malades et qui sont incapables. Alors quand on dit après coup, ben oui, mais il aurait dû faire ça. Mais oui, mais on ne sait pas dans 5 jours ce qui va se passer.
Et regardez, là, j'ai un texte devant moi. Là. Je vais vous lire ça. Des restaurateurs du Grand Montréal vont défier le gouvernement Legault le 30 janvier en ouvrant leur salle à manger. Ils vont faire fi des règles sanitaires en vigueur. On peut critiquer les règles sanitaire, mais ce n'est pas un propriétaire de resto en disant « Moi, je m'en fous du gouvernement, je vais ouvrir malgré tout. » C'est irresponsable de faire ça.
Mais bien sûr que c'est irresponsable de faire ça. Et cela dit, disons que les restaurateurs y ont goûté, et les commerçants en général y ont goûté, et surtout dans les restaurants, juste avant Noël, quand ils avaient prévu ouvrir, qu'ils avaient tout acheté, et que tout ça. C'est sûr qu'il y a des commerces qui ont été et qu'il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent déjà, il y en a qui ont fait faillite déjà et que ça a transformé leur vie. Mais c'est comme si des bombes nous tombaient sur la tête. Imaginez-vous donc pendant la guerre quand ils bombardaient les villes, est-ce que vous croyez que c'était le temps de sortir, qu'il y avait des gens qui sortaient dans la rue avec des drapeaux qui disaient j'ai la liberté de marcher dans les rues. Non, il n'y avait pas la liberté de marcher dans les rues.
Quand les nazis bombardaient Londres, le gouvernement anglais, Churchill, avait demandé aux gens de fermer les stores, de ne pas allumer les lumières pour que ça soit difficile pour les aviateurs de voir où étaient les maisons. Et même de mettre du duct tape, du ruban noir sur les fenêtres. Imaginez quelqu'un qui dit, moi, je m'en fous. Moi, j'ouvre ma fenêtre, puis j'ouvre les lumières, puis je m'en sacre. Mais il met tout le monde dans son building en danger. Voyons.
Oui, mais les gens ne se sentent pas en danger et les gens vivent dans une société où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et en général, quand ils ont des revendications à titre personnel, actuellement, on est dans un courant où ce sont les revendications personnelles. Vous me micro-agressez, alors c'est vous qui allez perdre votre job. Hein? C'était des profs qui se sont fait faire ça. Et donc, la revendication individuelle, qui est le fondement des arguments des antivax. Là, on nous dit des antivax, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se faire pas se faire vacciner, mais c'est pas vrai qu'il y en a tant que ça qui ont reçu à qui les médecins qui n'ont pas fait de certificat de complaisance. Précisons-le.
Ben ouais, c'est une très petite minorité.
Les médecins ont dit qu'il ne faut pas qu'ils soient vaccinés. C'est un minimum de gens. Là, on essaie de nous faire croire que ceux qui sont, au fond, qui sont le moteur idéologique de ce mouvement et qui maintiennent le combat et qui viennent nous insulter, on le sait, vous et moi et d'autres, hein, et nous menacer de mort, il faut le dire aussi, bien qu'il ne faut pas en tenir compte, puis il ne faut pas parler de ça, mais c'est ça qui prennent cette parole-là pour venir terroriser des gens qui font leur métier. Eh bien, c'est ça qui existe et c'est eux qui utilisent les pouvoirs de la démocratie, hein, à leur fin propre.
Exactement. Et je veux revenir à votre chronique là, sur la politique en terminant, parce que l'opposition accuse M. Legault de politiser la crise. Mais je m'excuse, mais l'opposition aussi politise la crise. Ils utilisent la pandémie pour se carrer des points contre le gouvernement, eux autres aussi.
Mais de toute façon, que doit faire un gouvernement sinon politiser son action? Mais de quoi on parle? Le gouvernement, c'est pas une chambre de commerce. C'est le gouvernement élu, reconnu. Ils sont là pour faire de la politique et l'opposition. Dans l'opposition, ils sont là aussi pour ça. Mais ce qu'on aurait espéré, et je le dis, je le mentionne, mais j'avais pas. Il aurait fallu que j'écrive une autre chronique après pour dire comment ça fait qu'il y a eu cette unanimité pour donner le droit à mourir dans la dignité à des gens. C'est le seul projet de loi qui est jamais passé, qui a jamais été entériné à l'unanimité à l'Assemblée nationale. On était tous d'accord pour laisser des gens mourir. Et là maintenant, il y a des gens qui meurent et on ne veut pas les protéger, ceux-là. C'est incroyable. Ce qu'ils ont droit, à vivre, ces gens-là.
Non, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Encore aujourd'hui, dans le journal, les hospitalisations ont triplé en 14 jours. Triste record aux soins intensifs. Le nombre de patients aux soins intensifs n'a jamais été aussi élevé. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui disent non, moi, c'est mes droits individuels qui priment. C'est irresponsable et déprimant. On s'est écrit, vous m'avez écrit hier. Je vous ai répondu ce matin. On regarde ça, ces gens-là qui ne pensent qu'aux droits individuels. Et comme vous dites, qui en font des débats théoriques, strictement théoriques, alors qu'il y a une réalité.
Et qu'on laisse les obèses puis les fumeurs tranquilles pour dire que c'est la même chose, c'est quand même invraisemblable. Et les gens, ça frappe l'imagination. Ah oui, c'est vrai, ben alors faisons payer les obèses, faisons payer, les gens qui ont des maladies chroniques qui vont toujours à l'hôpital. Mais c'est pas de ça qu'on parle.
C'est pas de ça qu'on parle.
Ça s'attrape pas, l'obésité. Ça s'attrape pas quand quelqu'un fume. Ça s'attrape pas. Ça détruit pas, ça désorganise pas toute une société. Mais c'est fou, des arguments comme ça.
Non, ça, c'est déprimant.
C'est fallacieux et c'est aveuglé. Au nom de quel principe de liberté? Nous ne sommes plus dans la liberté. Nous sommes dans la tyrannie. Des individus.
Et comme vous dites, c'est drôle parce qu'on protège les droits des minorités, mais par contre, le droit de la collectivité, de la majorité, ça, on s'en balance. Donc, votre titre, votre chronique s'intitule « La politique en folie ». Il faut absolument lire Denise aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon week-end malgré tout, Denise Bombardier.
Oui, on va souhaiter bon week-end, Richard. Au revoir. Ouais, merci.